C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Première nouvelle ce matin, 6 décembre, Polytechnique. Ce souvenir, c'est un événement qui, évidemment, nous a tellement marqué qu'il faut y revenir, puis il faut prendre le temps d'en parler. Et je vais le faire ce matin avec des invités, mais je pense qu'au-delà des cérémonies qui vont marquer la journée, il y en a ce matin, il y en a jusqu'à 17h10, le premier ministre Legault, le premier ministre Trudeau qui seront à cette cérémonie, donc, Polytechnique, 17h10, parce que c'est à ce moment-là que les premiers coups de feu ont été tirés. Ça arrive cette année dans un contexte, on vient d'en parler, de violence avec des armes à feu illégales et d'une augmentation du nombre de cas de féminicide. Et si c'est vrai qu'au fil des ans, il y a quand même un certain nombre de choses qui changent et qui ont changé pour le mieux en termes de mentalité, il en demeure pas moins que toute la question des armes à feu demeure extrêmement problématique. À chaque fois qu'on parle de ça, les gens qui possèdent des armes pour des fins de collection, pour la chasse, par exemple, se sentent toujours attaqués. Et je peux comprendre, mais ce n'est pas la raison du propos. La raison du propos, quand on parle des armes à feu, c'est de voir la récupération politique. Et je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui avec M. Trudeau, parce que je me souviens que beaucoup des membres du collectif sur le contrôle des armes à feu, des gens de Polytechnique, trouvaient que M. Trudeau était un homme avec beaucoup, beaucoup d'engagement, mais que ses promesses étaient rarement, concrétisées. Juste pour ce qui est des armes de poing, il a commencé par vouloir donner la responsabilité aux villes. Là, il est rendu à la donner aux provinces. Puis l'argument, c'est que les provinces sont d'accord. Mais c'est pas normal dans un pays qu'il y ait des différends sur cette question-là. Puis là, je suis très conscient des lobbies qui existent, là. Mais que tu puisses, en Ontario, te procurer des armes de poing, pas au Québec ou encore dans les maritimes. Autrement dit, cette volonté commence à peine à prendre forme dans des opérations policières. Parce que ce qui frappe, ce qui est nécessaire, c'est, dans le cas de la multiplication des événements violents à Montréal, c'est bien sûr le contrôle des armes illégales, des armes qu'on fabrique avec des imprimantes 3D, des armes qu'on va chercher par le biais de la contrebande à quoi assassiner. Et on a entendu des jeunes dire encore il y a quelques minutes à quel point c'était facile de trouver des armes puis que ça circulait trop librement. Alors, Polytechnique, c'est ça. Puis le rapport entre les hommes et les femmes de façon plus générale. Et le danger, c'est que ce drame, je dirais que ça disparaisse un peu de la mémoire. Pas de gens qui l'ont vécu, de près ou de loin, mais je vous disais tantôt, des plus jeunes qui savent pas trop ce que c'est, puis c'est pas tout le monde qui sait que c'est 14 femmes qui ont été victimes de cette attaque. Alors, on va vous en reparler un peu plus tard ce matin. Et ça arrive où, dans la presse, entre autres, on nous explique qu'il y a des jeunes qui sont évidemment armés, mais il y a aussi des adultes qui veulent se protéger dans certains quartiers de Montréal. C'est assez troublant à lire. Pas beaucoup de monde nécessairement, mais quelques-uns qui font des demandes pour obtenir des permis, pour avoir des armes à feu. Puis tu ne peux pas obtenir un permis pour la légitime défense, mais des gens qui veulent acheter légalement des armes au cas où. Pas pour se promener avec, mais cette espèce de sentiment d'incertitude. Puis j'entends une des mères qui dit « On en a assez des douilles retrouvées au parc ou en bordure du trottoir. Quand tu entends les coups de feu et que c'est proche de chez toi, tu te mets vraiment à avoir peur de la balle perdue. » Puis là, ça ramène, puis c'est un des sujets des commissaires ce matin, tout le débat, est-ce que Montréal est une ville sécuritaire? Bien sûr que Montréal est une ville sécuritaire en soi, quand on compare à ce qu'on voit dans d'autres villes. Mais en même temps, il y a des quartiers plus chauds, puis surtout, il y a des endroits où les gens se sentent menacés parce qu'on tire n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment de la journée. Balle perdue, comme le disait le père du jeune homme de 20 ans qui a été tué la semaine dernière, il était là au mauvais moment. Mais ça ne fait pas de Montréal une ville où on craint de sortir, mais ça fait une ville où il y a certains quartiers qui sont malheureusement plus touchés. On peut penser à Rivière-des-Prairies, on peut penser à Saint-Michel, on peut penser à Anjou, Saint-Léonard. Ça commence à faire quand même beaucoup de quartiers. Et Radio-Canada qui parle d'une escalade de violence, même dans les écoles primaires à Anjou. Des parents qui racontent que leurs enfants jouaient dans des cours d'école et que là, il y a des ados qui s'en sont pris à eux, puis que ça a brassé, puis que là, les enfants ont peur. Et là, vous avez des professeurs qui se mobilisent actuellement, justement, pour qu'on parle de cette violence, mais surtout qu'on puisse prendre des actions. Il y a une enseignante à l'école des Roseraies qui témoigne, qui dit qu'elle ne se sent pas en sécurité comme enseignant et enseignante de les laisser sortir de l'école. Alors, ça amène beaucoup de préoccupations. Puis pendant ce temps-là, la ministre Guilbeault nous a annoncé des mesures. On ne peut pas être contre la vertu de dire on va donner plus d'argent aux communautaires. Auparavant, on a annoncé une augmentation des budgets pour les opérations policières, pour la saisie des armes. Ça commence à donner certain nombre de résultats, mais pour les armes qu'on saisit, il y en a combien qui entrent illégalement sur le marché? Fait que c'est un matin où on parle des femmes assassinées à Polytechnique, on parle des féminicides en général durant l'année, de ces événements violents. Puis là, on comprend qu'il y a une volonté du pouvoir politique de reconnaître le rôle du communautaire puis d'occuper des jeunes. Puis il y a beaucoup qui témoignent, entre autres dans le Journal de Montréal, de la nécessité de voir aussi ce qui se passe sur le web, qui est une source, on pense aux réseaux sociaux, où justement les conflits prennent naissance ou dégénèrent. Alors, c'est pas quelque chose, évidemment, à négliger. J'ajoute, pour ce qui est des centres de services scolaires, le centre Wilfrid Laurier, c'est dans les Laurentides, là, et c'est fermé pour la journée. L'Académie La Fontaine, également, vient de s'ajouter à la liste des fermetures. CPE, grève générale pour les CPE, CSN, ça continue. CSQ, c'est prévu pour s'amorcer jeudi. Entre-temps, hier, avec les partis d'opposition, les syndicats ont demandé au premier ministre Legault d'intervenir, de se mêler du dossier. Et là, c'est la guerre des chiffres. Le gouvernement a fait une pub en disant « Voici, vous avez des augmentations de 30 %. » Syndicats disent que c'est pas vrai, que c'est un mensonge, et qu'on est loin du 30$ de l'heure que prétend offrir le gouvernement. Pour ce qui est des employés de soutien, là, c'est le syndicat qui dit les revenus sont moins élevés de 25 % par rapport à des emplois comparables dans le secteur public. Alors, on est dans une guerre de chiffres et il n'y a pas d'entente. Et on se prépare pour une grève. Alors, on va parler plus tard avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Et est-ce que le PM va intervenir? Dites-vous une chose, le PM est pas bien loin, là. C'est-à-dire qu'il regarde ça aller. Il a mandaté sa présidente du Conseil du Trésor. Est-ce qu'il va convoquer les dirigeants syndicaux avec la présidente, Mme Lebel, puis ils vont regarder ça? Je ne sais pas quelle sera la stratégie du gouvernement. Mais on a vu des parents qui sont solidaires, puis c'est vrai, là. Mais il y a de plus en plus de parents qui sont exaspérés, qui perdent de l'argent parce qu'ils ne sont pas capables de faire garder leurs enfants. Puis, je ne sais pas combien de courriels je reçois de gens qui me disent « Monsieur Arcan, j'ai épuisé ma banque de congés, j'ai pas de congés, je suis travailleur autonome, les grands-parents ne peuvent pas garder tout le temps. » Puis là, on ne parle pas de 2-3 jours, là. On parle quand même d'une grève qui est illimitée et qui va peut-être nous amener jusqu'à Noël, on ne le souhaite pas personne. Mais, autrement dit, les négociations qui ne donnent pas grand résultat. On nous dit d'ailleurs, en parlant de négo, qu'à la Société des alcools du Québec, les employés d'entrepôt ont commencé à voter. Et que aujourd'hui, ce sont les employés de Québec qui votent. Fait qu'officiellement, le syndicat ne veut pas trop parler pour ne pas influencer le résultat. Mais des gens nous disent que ce serait étonnant que l'entente pourtant recommandée par l'exécutif syndical soit entérinée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aurait reprise la grève. Mais c'est loin d'être certain là, que l'entente de principe va être conclue. Entre-temps, si vous êtes allé dans les succursales de la SAQ, on se pense à Moscou ou en Pologne face à une boulangerie. Sérieusement, les tablettes sont vides. Puis là, on ne parle pas de produits là, rarissimes. Là. On parle des produits courants qui normalement sont disponibles. Puis je sais qu'il n'y a pas que la grève là qui a fait en sorte qu'on ait eu des délais, qu'il y a des problèmes d'importation des produits, mais quand même, là, Il y a des gens qui m'envoient des photos. J'ai des amis qui sont allés se promener, qui me montrent ça. Je suis allé, moi aussi, puis je regardais ça. Je me suis dit, ouais. Puis là, je comprends qu'il y a une razzia en raison du conflit de travail, mais quand même, là, c'est assez moyen. Alors, on ne sait pas comment ça va virer, ce vote sur le projet de convention collective. Bon, COVID, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? Il y a des éléments très clairs qui reviennent. D'abord, il faut parler de ce nouveau variant, le Omicron. Ce qu'on entend, ce que j'ai lu, si je résume ce matin, entre autres, les propos du docteur Fauci, là, le grand patron de la santé publique aux États-Unis, il semble que le nouveau variant soit, disons, assez contagieux, mais moins virulent qu'on pensait, moins dangereux, avec des effets secondaires un peu plus limités. Soyons prudents, tirons pas de conclusions. Au Québec, on est encore dans 1000 cas et plus, mais l'impact sur le réseau de la santé semble assez, je dirais, stable. Il n'y a pas là d'augmentation massive du nombre d'hospitalisations puis de cas aux soins intensifs. Puis encore une fois, majoritairement, pas exclusivement, mais majoritairement, ce sont des non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital. Alors, ce nouveau variant va avoir quel effet dans les prochains jours? Je regarde en Europe, c'est sûr que il y a des mesures qui sont prises, le nombre de cas est quand même élevé. Et il y a, par exemple, plusieurs pays européens qui envisagent possiblement de resserrer les mesures. Et pour ce qui est des voyages aussi, là, je rappelle qu'au Canada, vous devez, au retour, même si vous avez passé un test avant de quitter, ben vous devez passer un autre test une fois à l'aéroport, puis d'attendre le résultat chez vous. La semaine passée, on avait des problèmes d'organisation. On verra cette semaine à quoi ça va ressembler. Autrement dit, ce variant évidemment, est un irritant. La plupart des experts vous diront qu'il y en aura d'autres variants. On ne sait pas la forme, on ne sait pas non plus pendant combien de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, la vaccination chez les enfants va bien. Puis on le voit qu'il y a beaucoup de cas là, positifs chez les enfants. C'est sûr, ils ne sont pas vaccinés. Et on est au-delà de 80 % collectivement de vaccinés. Et là, cette semaine, on devrait avoir les directives, je dis bien on devrait, du docteur Arruda pour le temps des fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on va permettre? Est-ce qu'on va accroître le nombre de personnes? On sait que M. Legault a lancé ça dans l'univers en disant 20-25. Est-ce que le docteur Arruda va dire la même chose? Alors, à quel moment, peut-être demain, on aura des précisions là-dessus. Également, vous parlez de ce procès de la fillette de Granby. Phase cruciale, puisqu'à compter de lundi, les procureurs, autant la poursuite des PCP que la défense, vont présenter leurs arguments, leurs plaidoiries, et après quoi le jury va se retirer pour délibérer. Et on sait que c'est le procès de la belle-mère. L'enfant avait 7 ans, et on a décrit l'horreur que cet enfant-là a vécu, puis les conditions affreuses dans lesquelles cet enfant-là a évolué pour finalement décéder, un enfant amaigri, un enfant qu'on a attaché, enfermé dans une chambre. Puis quel est le niveau de responsabilité de la belle-mère dans cette affaire-là? Et aussi, je lisais dans la presse ce matin, c'est intéressant, augmentation du nombre de plaintes en télécommunication. Ça, c'est un sujet que j'aime, là. Des gens qui reçoivent, par exemple, pour un forfait cellulaire, une facture qui dépasse le montant sur lequel on s'était entendu. Un classique. Alors, l'exemple qu'on donne, on vous dit, monsieur, c'est 45 $. Finalement, c'est une facture de 55. Les frais pour changer de numéro, on te promet de la haute vitesse, elle se rend pas dans ton coin. Alors, donc, la commission des plaintes relatives aux services de télécom et de télévision va rendre son rapport public aujourd'hui, mais on sait déjà qu'il y a une augmentation de pas loin de 10 %. Et la plupart des plaintes se règlent à la satisfaction du consommateur. Puis c'est important, là. Puis je comprends que c'est beaucoup de transactions, mais ce qui revient tout le temps, c'est ça. Des forfaits non respectés, une vitesse qui vous est offerte qui n'existe pas, puis des petits détails, là, qu'on a subtilement ajoutés à votre facture.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
32 ans aujourd'hui, 14 femmes étaient assassinées par arme à feu à la Polytechnique de Montréal depuis ce temps. Bien sûr, des choses ont changé, il y a eu des progrès, des améliorations, mais quand on regarde cette année avec le nombre de féminicides, quand on regarde les cas de violence avec arme à feu des adolescents qui sont assassinés, ça nous brasse encore les émotions, puis ça nous amène une série de réflexions. J'en parle d'abord avec Nathalie Provost, avec qui on a eu l'occasion d'échanger souvent, qui est une des survivantes de cette tuerie. Nathalie Provost, bonjour.
Bonjour.
Comment vous vous sentez aujourd'hui?
Chaque année, c'est des années particulières. Cette année, je me suis appuyée sur la vie, l'espoir, l'envie d'aller de l'avant de mes 4 enfants. Et j'y regarde aller, puis je me dis qu'on va probablement réussir à avancer encore comme on l'a fait quand on était plus jeune et comme nos parents avant nous. Voilà.
Est-ce que vous vivez beaucoup de souvenirs? Vous dites, je regarde vers l'avant, je pense à mes enfants, mais est-ce qu'il y a des retours vers l'arrière aussi?
Pas beaucoup. Peut-être que le fait d'avoir été impliquée, d'avoir parlé beaucoup au cours des années, j'ai aussi eu des traitements pour le choc post-traumatique et tout ça m'a probablement aidé beaucoup à pas être dans les flashbacks ou l'anxiété que peut générer un tel événement.
Mais c'est une année aussi où on a vu les cas de féminicide augmenter. On voit la circulation des armes à feu illégales, faciles à trouver, ces fusillades, ces adolescents assassinés. C'est comme s'il y a eu des programmes en même temps. Là, il y a des situations qui posent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes.
En fait, le marché des armes à feu est un marché qui a cru de manière exponentielle dans les dernières années. Les individus ont acquis beaucoup d'armes. Le marketing, le développement de produits, tout ça a fait que c'est devenu quelque chose de courant puis de très banalisé. Ça nous effraie beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue de demander des lois sévères et qui nous encadrent bien et mieux. Et puis on paye encore le prix de l'abolition du registre des armes d'épaule. C'était un instrument qui donnait une structure d'ensemble sur l'encadrement de toutes les armes à feu, des données aux policiers pour qu'ils puissent agir, pour qu'ils puissent savoir le portrait sur le plan de la propriété d'armes à feu des personnes lorsqu'ils interpellaient quelqu'un ou lorsqu'ils allaient sur une scène de crime. Qu'on n'a plus, puis on les voit, les conséquences. Hein? La violence armée n'a cessé d'augmenter depuis 2012. Mais juste pour ça, mais ça la rend plus accessible.
C'est un marché noir, vous le dites, là, des armes illégales qui est assez florissant. Mais en même temps, le premier ministre Trudeau a toujours pris des engagements, je pense aux armes de poing, en disant, ben au début, ça va être les villes, puis après ça, les provinces. Puis ça n'avance pas, ça aboutit pas. Il va être là cet après-midi, en fin de journée, le 17h10, pour la cérémonie.
Ah oui?
Oui. Vous en pensez quoi de sa présence, alors que ça tarde à se concrétiser, ses engagements?
Bien, on va lui parler, M. Arcand, puis on va lui dire qu'il est nécessaire qu'il agisse. Vous savez, au mois de mai, il n'était plus le bienvenu parce que le dernier projet de loi qu'ils ont déposé pour nous était une aberration, c'est-à-dire que c'était une décision forte, l'arrêter en conseil qui bannissait les armes d'épaule. On était contents, on l'a applaudi, mais il fallait fermer la boucle au complet et avoir un programme de rachat obligatoire, ce qui n'était pas là. Ils l'ont promis en élection, on l'attend. On l'attend avec impatience. Pour nous, c'est des gestes important et on peut pas juste faire le premier pas, il faut boucler les boucles, il faut attacher les ficelles, sinon il y a toujours moyen de faire et vous savez, jamais on avait imaginé qu'un jour le registre des armes d'épaule tomberait comme ça. Or, il a été possible, donc il faut encadrer de manière sévère et de manière rigoureuse les armes à feu. On meurt au bout d'une arme, c'est fait pour tuer. On l'oublie peut-être, mais c'était fait pour tuer. Et là, on le voit dans les rues de Montréal. Il faut agir. Je sais que c'est qu'un petit bout, le contrôle des armes à feu, qu'il y a d'autres gestes à faire dans la protection des frontières, dans la lutte pour soutenir les jeunes socialement. C'est tous des gestes qui sont à faire, mais il faut aussi un contrôle sévère.
quel progrès vous avez senti depuis la tuerie de Polytechnique? Autrement dit, autant, et peut-être je dirais surtout là, dans les rapports entre les hommes et les femmes depuis 32 ans.
Ben, quand on me pose la question du progrès, j'ai toujours l'impression de où on avance, où on recule. Et je vous dirais que le discours qu'on a, que j'observe les jeunes entretenir, puis je vais me servir de ce qu'on a vu avec le hashtag Been Raped Never Reported en 2014, puis le hashtag MeToo en 2019. Ces éléments-là ont suscité un dialogue social, un discours entre nous qui peut-être que tout n'avance pas, puis c'est dur de voir 18 féminicides en 2021. Mais moi, je trouve que notre discours, notre dialogue avance, augmente. Mes enfants ont une conscience de ces questions-là, 10 fois la mienne au même âge. Et j'espère que cette conscience-là, qui, oui, parfois amène de l'anxiété, oui, parfois amène des certains dérapages, mais cette conscience-là, je veux y croire. Et je veux espérer que ça va les amener à prendre des décisions. C'est eux qui vont bâtir le monde de demain. Mon temps, il s'achève. Et donc, j'espère que l'évolution, leur capacité de dialogue, leur lucidité va les amener à poser des gestes importants. Pour eux, l'égalité des chances, c'est bien plus évident que pour moi. Il y avait une part d'inconscience dans ma marche à 23 ans. Dans les propos que j'ai tenus devant le tireur de Polytechnique, c'était tout est un jardin de roses. Mes enfants le savent que c'est difficile devant eux et pourtant ils continuent d'avancer. Ils cherchent à avancer ensemble et ils abordent des sujets difficiles entre eux, avec nous. Moi, c'est là-dessus que je mets.
Oui, puis vous soulevez un point bien important. Vous dites, quand j'avais, dans la vingtaine, pour moi, c'était pas quelque chose d'anormal qu'une femme soit à Polytechnique, puis c'était accepté par tous. Il y avait ce côté-là, je dirais pas naïf, là, mais ce regard. Je suis pas, féministe.
Vous pouvez
là,
le dire, naïf.
Je suis pas féministe, j'ai pas besoin. Ça coule de source.
Ouais.
Puis c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et je l'ai appris à la dure. Et donc, mais pour mes enfants, ils le savent que ça ne coule pas de source. Ils sont conscients de ça. Puis ils sont conscients que c'est pas parce que c'est plus facile au Québec, parce que je pense encore qu'on a une société qui va mieux que dans bien d'autres. Mais ils sont beaucoup plus sensibles aux inégalités sociales et au fait donc que les possibilités qu'il y a pour une certaine classe privilégiée, elle est pas vraie pour tous.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée quand même.
Ça me fait plaisir.
Au
Bonne
revoir.
Journée.
Nathalie Provost, survivante de la tuerie de Polytechnique. Maintenant, Jean-Marc Dalphon est avec nous. Il est le cousin d'Anne-Marie Edward, l'une des 14 victimes. Mais lors du 30e anniversaire de cette tragédie en 2019, Marie-Joanne Boucher et lui ont créé un spectacle documentaire, ça s'appelle « Projet Polytechnique », pour la discussion, pour la réflexion et aussi pour que tous se souviennent de ces terribles événements. Puis c'est assez étonnant, mais peut-être qu'il y a des plus jeunes qui sont pas tout à fait conscients de ce qui s'est passé ce 6 décembre 1989. Jean-Marc Dalphon, bonjour.
Bonjour à vous.
Donc, vous l'avez créé, ce projet-là. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie, mais vous avez pu quand même le présenter. Peu de fois, mais quand même un peu. Ça a été quoi la réaction des gens qui ont assisté, je pense, à la licorne, à la lecture publique?
Ben, la réaction des gens à notre carte blanche à la licorne au mois de février 2019 a été vraiment très, 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 très bonne. Maintenant, je dois préciser que on a présenté des premiers extraits, mais le spectacle est encore en cours de construction. Là, notre première est prévue en novembre 2023.
Vous aviez invité des étudiants, je pense, à une représentation.
Oui, moi, j'enseignais au Cégep Édouard-Montpetit et puis pour préparer ce qu'on présentait à la licorne, on a offert au département de littérature française de présenter notre extrait là, devant les étudiants. Ils étaient à peu près 200 dans la salle à écouter. Et puis, quand on a terminé de leur présenter le projet Polytechnique, le premier extrait, on a posé la question, combien dans la salle connaissiez l'existence de l'attentat de Polytechnique? Il y a une moitié de la salle qui a levé la main.
Donc, attendez, la moitié seulement?
La moitié de la salle, oui. Évidemment, il n'y a rien de scientifique là-dedans.
Non, mais quand même.
60%, mais... Mais il y a une moitié de la salle donc qui a levé la main. Donc, il y a une moitié des jeunes qui ne connaissaient pas l'attentat de Polytechnique. Et après ça, on a posé la question à ceux qui ont la main levée. Combien d'entre vous savez que cet attentat-là s'est déroulé à Montréal et ou que uniquement que des femmes avaient été ciblées? Il y a une moitié des mains qui sont descendues. Alors, je pense qu'il est de notre devoir collectif d'assurer que la mémoire de cet événement-là perdure pour faire en sorte que ces filles-là, un, ne soient pas mortes pour rien. Et je pense qu'on a encore besoin de parler de la conversation qui est nécessaire entre les hommes et les femmes pour avoir un mieux vivre en société, tout le monde ensemble.
Vous avez fait également une présence sur Zoom avec des étudiants de première année à Polytechnique, puis parmi eux, il y en avait aussi qui ne savaient pas ce qui s'était passé dans leur établissement.
Oui, on a eu l'occasion de parler à des étudiants de Polytechnique pendant un de leurs cours, pendant la pandémie, évidemment. Zoom était notre meilleur ami. Et puis, effectivement, là, des étudiants de Polytechnique qui n'étaient pas au courant de l'attentat au moment où on leur a parlé. Évidemment, comme j'expliquais déjà à votre recherchiste, je leur donne le bénéfice du doute que Polytechnique a un très grand apport d'étudiants étrangers. Et l'école Polytechnique fait beaucoup d'efforts pour rappeler l'importance du 6 décembre. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le 6 décembre, à Polytechnique, depuis 1990 maintenant, il n'y a pas de cours. Les cours sont levés le 6 décembre.
Mais ça montre l'importance du devoir de mémoire, l'importance de votre travail, là, c'est-à-dire de garder dans l'espace public le drame de Polytechnique, pas juste pour les victimes directes ou indirectes, mais il faut savoir ce qui s'est passé, puis il faut savoir dans quel contexte aussi ça s'est passé, il y a 32 ans.
Il faut pas avoir peur d'en parler, c'est notre prétention à Marie-Joanne et moi, là, puis à toute l'équipe de porte-parole avec qui on travaille sur le projet. Il faut pas avoir peur d'en parler parce que plus on en parle, plus on est capable de faire face à la réalité de cet attentat-là. Et puis, plus on en parle, moins ça laisse de la place à un certain, moi, ce que j'appelle un vacuum, en fait, là, parce qu'il y a des communautés de masculinistes ultra-radicaux à travers la planète qui vénèrent réellement l'auteur de l'attentat de Polytechnique dans divers sites web. Ils l'appellent le prophète. Je pense qu'on peut pas se permettre d'ignorer que à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, le tueur a inscrit le nom de Mark Lépine sur son arme en une certaine forme d'hommage. Et il y a d'autres attentats anti-femmes, d'autres féminicides qui ont été perpétrés à travers la planète. Et les auteurs de ces attentats-là connaissaient Mark Lépine et avaient étudié sur ce qu'il a fait. C'est notre responsabilité collective d'en parler le plus possible pour enlever ce vacuum-là, pour enlever de l'oxygène à ces mouvements-là.
Monsieur Dalphon, merci. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir. Jean-Marc Dalphon, donc avec Marie-Joanne Boucher, ont créé ce projet Polytechnique. Je rappelle que sa cousine Anne-Marie Edward est l'une des 14 victimes. Et souvent, c'est peut-être un peu cliché, là, mais le devoir de mémoire est tellement vrai dans ce cas-là. Et de rappeler ce qui s'est passé, puis pas avoir peur d'en parler, puis dans quel contexte ce drame-là s'est joué.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, on va parler justement du contrôle des armes à feu et surtout avec les différents événements qu'on a vus à Montréal depuis le début de l'année, coups de feu, des blessés et même malheureusement des adolescents ou jeunes hommes qui ont été tués. La ministre Geneviève Guilbeault a annoncé hier des investissements pour, par exemple, soutenir des organismes communautaires. On rappelle les opérations policières, l'opération Centaure. Et là, je disais ce matin dans la presse qu'il y a des gens qui pensent à s'armer pour se protéger. Donc, aller chercher un permis, avoir une arme à feu, parce qu'ils se sentent un peu beaucoup menacés dans le quartier où il vit. Francis Langlois est un spécialiste des armes et il est professeur au cégep de Trois-Rivières. Monsieur Langlois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arquin.
Question bien simple en partant. Est-ce que je peux obtenir un permis de port d'armes ou de possession d'armes parce que je me sens menacé, je veux me protéger?
Non, c'est interdit au Canada. Ce n'est pas une raison valable pour obtenir un permis de possession et encore moins un permis de port d'armes. Donc, pour un permis de possession, il faudrait dire que, bon, soit on fait du test sportif, on va à la chasse, on pratique ce sport-là, ou encore on a une collection peut-être. Là. Ça pourrait être valable, mais pas une question de sécurité personnelle. Et dans le cas d'un permis de port d'armes, il faudrait vraiment que ça soit lié, disons, à la profession, donc les gardiens de sécurité, par exemple. Ça fonctionne. Et bon, peut-être là des gens dans des situations très particulières, là, garde du corps et autres, là, mais sinon, c'est très, très rare, là, en principe. Puis évidemment, tout ça est géré à partir du gouvernement fédéral, mais aussi le contrôleur des armes à feu de chaque province a, un certain regard là, sur qui obtient un permis de port d'armes. Et donc, dans certaines provinces, comme au Québec, par exemple, c'est un peu plus serré que dans d'autres, comme en Alberta, par exemple.
OK, donc quelqu'un qui voudrait inventer un prétexte, on serait capable, possiblement, là, de, comme on dit, de débusquer le mensonge.
Ben oui, c'est sûr que pour un permis de port d'armes, là, c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus difficile à inventer. Maintenant, pour acheter une arme, quelqu'un pourrait toujours dire qu'il va faire du tir sportif. À partir de ce moment-là, si la personne n'a pas d'antécédent judiciaire ou psychiatrique, si elle est patiente, elle remplit toutes les conditions, c'est-à-dire le cours de pratique, bon, etc., etc. Là, si elle est patiente, elle finit par recevoir son permis par la poste, ben ça va se faire là. Mais donc faut quand même qu'elle trouve des gens qui vont être prêts à jurer de la probité de cette personne-là, etc. Là, donc ça reste quand même compliqué là. Mais oui, quelqu'un de patient peut se trouver une raison pour obtenir un permis d'achat et de possession d'armes.
En tout cas, ça traduit un sentiment chez bien des gens là, qui vivent dans certains quartiers un peu plus chauds à Montréal. Est-ce qu'on a une idée de l'importance du marché noir des armes à feu? Autant les armes qui arrivent, on le voit, par de la contrebande, que des armes fabriquées avec des imprimantes 3D. Là.
C'est très difficile de savoir ce qui traverse, ce qui se retrouve sur le marché noir. Ceci étant dit, étant donné que notre voisin, c'est le pays le plus armé au monde là, en termes civils, l'offre est immense. Et seulement pour vous donner une idée, le nombre d'armes vendues en 2021 jusqu'à maintenant, c'est autour de 18 millions d'armes légales là, qui ont été vendues aux États-Unis. Puis seulement au mois de novembre, c'est 1,7 million d'armes. Donc, c'est énorme. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un bassin gigantesque pour aller se procurer justement des armes de seconde main, des armes qui ont été volées, peut-être aussi, bref, et de les importer ici au Canada. Donc, c'est pas très, très difficile. Donc, ça explique pourquoi on a des saisies spectaculaires comme celle de la semaine dernière et il y a quelques mois, là.
Bon, j'aimerais vous entendre sur les armes de poing, parce que on sait que le gouvernement fédéral veut confier la responsabilité aux provinces. D'une part. D'autre part, on voit que plusieurs de ces crimes ont été commis avec des armes de poing illégales là, qui venaient du marché noir dont on vient de parler. Est-ce que c'est utile un registre, un contrôle, ou si ce que j'entends des gens qui ont des armes à feu, de toute façon, quelqu'un qui fait partie d'un gang de rue ou un criminel va trouver des armes de façon illégale, il n'ira pas s'inscrire dans un registre?
Ben, vous mettez le doigt sur un flou artistique qui est beaucoup entretenu par le gouvernement fédéral depuis plusieurs années et particulièrement en ce moment. Donc, la question, il y a deux questions ici qui sont séparées, connectées, mais pas exactement, comment je voudrais répondre pas aux mêmes enjeux. Donc, d'un côté, on a le contrôle des armes légales, d'accord? Donc, pistolets, carabines, fusils de chasse qui sont détenus par des Canadiens et des Canadiennes. Donc, ça, si on contrôle ces choses-là, c'est d'abord et avant tout pour éviter un certain type de violence potentielle qui est liée soit aux tueries de masse, aux suicides, aux accidents, aux vols, bien entendu, parce que s'il y a des armes qui traînent partout dans une maison, évidemment, un criminel pourrait être intéressé par cette maison-là. Donc, ça, c'est un certain type de violence, de criminalité qu'on peut retrouver qui sont liées aux armes légales. Évidemment, certaines d'entre elles vont se retrouver sur le marché noir, bon, parce qu'elles sont volées ou en tout cas achetées par des gens qui ont pas de scrupules, mais c'est une minorité. Et la plupart là, des propriétaires d'armes à feu sont des gens très, très, très responsables par ailleurs. Et l'autre volet, donc ce sont là, c'est le contrôle des armes illégales qui se retrouvent sur le territoire canadien québécois. Et là, à ce moment-là, ça, ce sont les armes qu'on entend dans les rues de Montréal notamment. Et là, à ce moment-là, ça, c'est une autre violence, c'est une autre façon de contrôler. Et donc, ce qu'il faut faire, bon, première des choses, contrôler aux frontières, s'assurer, un peu comme Mme Guilbeault l'a fait avec l'opération Centaure, et j'attends un plan similaire du gouvernement fédéral, donc dans lequel le côté répression, si vous voulez, l'aspect répression va être mis de l'avant, mais en poussant sur la collaboration entre les différents corps de police à différents niveaux, municipal, provincial, les corps de police des Premières Nations, avec les autorités américaines, évidemment. Donc, tout ça, ça aide à amenuiser la violence par arme à feu au Canada, ou en tout cas à Montréal, en mettant de la pression sur ce qu'on appelle les Iron Pipelines, qui amènent finalement des pistolets ici à partir des États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment la façon de combattre. Ensuite, bon, il y a tout le volet que Mme Guilbeault a annoncé hier, qui est vraiment génial, là, donc d'aider les communautés et les individus qui ont de la difficulté en ce moment pour éviter qu'ils se retrouvent à être intéressés par le crime organisé ou en tout cas la violence là, comme alternative à une vie plus normale. Donc, ça, donc vous voyez, il y a deux volets. Donc, lorsque on parle de donner des pouvoirs aux provinces, puis il y a plus de quelques mois, bon, on dit aux municipalités sur le contrôle des armes de poing pour enrayer la violence qui est dans les rues de Montréal, ça sert pas à grand chose. C'est vrai. Par contre, ça aide à contrôler nos types de violences potentielles, mais ça reste que c'est pas
Mais dans le fond, oui, M. Langlois, dans le fond, là, quand on se. C'est vrai qu'il y a une violence reliée aux armes à feu tout court, là, potentielle. Mais ce que vous mettez en lumière, si on veut sortir les armes, en tout cas, sans s'attaquer aux armes qui circulent à Montréal, c'est le marché noir, c'est le marché illégal, puis c'est la police qui va faire ça.
Oui, et puis des transferts de pouvoir sur les armes légales, qu'elles soient envoyées, ces pouvoirs-là, qu'ils soient envoyés aux municipalités ou aux provinces, ça ne changera pas grand-chose. L'important, c'est de cogner sur le trafic illégal qui rentre en provenance du sud de la frontière et ensuite, ou en même temps, d'aider les communautés qui sont affectées par cette violence-là à se sortir de ce cycle-là et puis à revitaliser le tissu socio-économique et même politique. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, le contrôle des armes de poing, lorsque le gouvernement fédéral dit, disons à Mme Guilbeault ou à M. Legault, oui, on va vous transférer des pouvoirs pour le contrôle des armes de poing, vous pourrez les bannir de vos territoires, mais c'est un peu comme si je vous parlais puis je vous disais, il est quelle heure, puis, et vous me répondez, il fait beau. Les deux sont vrais. Mais ça, c'est pas la bonne réponse.
Merci, M. Langlois. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir, M. Arcand. Bonne journée.
Francis Langlois, spécialiste des armes, professeur au cégep de Trois-Rivières et membre de la chaire Raoul Dandurand.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Toujours pas d'entente entre le gouvernement et les syndicats qui représentent les travailleurs, travailleuses des CPE. En plus de ça, on sait que la CSN, les CPE-CSN sont en grève et ça continue, alors que ceux affiliés à la CSQ devraient déclencher la grève jeudi. Et on a vu le point de presse hier avec l'appui des partis d'opposition demandant au premier ministre François Legault de se mêler de cette négociation. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, est avec nous. Maître Lebel, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que M. Legault va se mêler de la négo?
Mais M. Legault n'est pas très loin de cette négo. On a des discussions qui sont quand même régulières sur le sujet. D'ailleurs, il a été très clair, je pense que c'est mercredi passé, en tout cas lors de ces points de presse, les différents points de presse qui ont lieu à l'Assemblée nationale, où on allait maintenir le principe de la négociation différenciée comme on le fait pour les autres secteurs et qu'on n'allait pas offrir les mêmes augmentations à tous. Ceci étant dit, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à faire là, pour les autres secteurs en soutien.
Sauf que l'appel d'hier, on comprend que le premier ministre s'intéresse à ce qui se passe, mais c'est genre, on veut le rencontrer. On a vu ça dans le passé, dans l'histoire des négociations au Québec, où ça se règle dans le bureau du PM. Est-ce que c'est ce qui se prépare cette fois-ci?
Bon, pour l'instant, on veut laisser toute la place à la négo. Pour moi, c'est le seul moyen d'y arriver, c'est de mettre tous les efforts aux tables de négociation dans les prochains jours. On est très axé là-dessus. D'ailleurs, on a des rencontres encore hier, on en a aujourd'hui avec certains syndicats. Bon, ils sont trois, là. Et une des grandes difficultés, M. Arcand, il faut le réitérer ce matin, c'est que même les syndicats, quand on parle des employés de soutien, ont des demandes différentes. Alors, la grande difficulté présentement, c'est de trouver un point commun à tous parce qu'il n'y aura pas des différenciations. Là, on ne fera pas plusieurs catégories dans les mêmes appellations au sein des CPE. Et ça, c'est une difficulté. Là. La CSN, elle est vraiment, j'allais dire, au plafond, c'est-à-dire qu'elle demande pour l'instant, en tout cas encore, la même augmentation que pour les éducatrices. CSQ, FTQ, c'est modulé différemment. On est donc, moi, je pense qu'on va donner encore là tous les efforts aux tables de négociation dans les prochains jours. Pour nous, c'est le seul moyen d'y arriver. Puis le PM a dit la même chose la semaine passée.
OK. La pub où vous parlez du 30$ l'heure, ça les a insultés. En tout cas, beaucoup ont été insultés, puis ils n'arrêtent pas de dire, puis de nous écrire pour nous dire c'est pas vrai ce qu'elle vient de dire dans la pub.
Ben écoutez, je m'en excuse, là, il y a deux niveaux. Je pense que le gouvernement, à partir du moment où on déclenche une grève générale illimitée, qu'on allègue que le gouvernement est mauvaise foi, que les offres sont insuffisantes, et de toute façon, les syndicats font également des publicités pour bien informer les citoyens et les membres, ben je pense que c'est du devoir du gouvernement de aussi faire connaître le plus possible des offres qui ne sont pas secrètes, là, je devrais le dire, là. Tout ce qui est mentionné, tout ce que je dis publiquement, ben c'est des choses qu'on peut dire parce que c'est déposé aux tables. Et le 30$ de l'heure, je m'excuse, mais il est déposé aux tables de négociation.
Et qu'est-ce que ça prend pour faire 30$ de l'heure?
Ah, oh, ça ne prend aucune modification à l'heure actuelle. Il y avait un grand débat, vous vous souviendrez, dans les dernières semaines, sur on veut pas faire 40 heures et moi, comme gouvernement, je demandais un rehaussement. Et il est vrai qu'entre l'offre de juillet, on est rendu à 3. Je veux juste recalculer. On est rendu à 3 pas là, par rapport aux éducatrices. Il est vrai que dans les derniers temps, là, on était peut-être plus à 28$ pour les éducatrices qui veulent maintenir le 32 heures ou 4 jours semaine. Maintenant, c'est plus le cas. Là. C'est plus le cas depuis au moins 2 semaines. Là, peut-être mon temps n'est pas exact en termes de jours, là, mais au moins dans les 2 dernières semaines, même au déclenchement de la grève générale illimitée, le 30$ était sur la table pour les éducatrices sans rehaussement. Si on calcule la prime, là, on est plus dans l'ordre de 32$ de l'heure, là, j'arrondis. Là. Donc, le 30$, il est acquis présentement aux tables de négo pour les 3 syndicats. Maintenant,
pour les emplois d'entretien, est-ce que c'est vrai qu'il y a des écarts là, de 10 % 15 % avec des jobs équivalents dans le secteur public?
Bon, équivalent, tout ça est une façon de... ça dépend comment on calcule ça. Présentement, les rehaussements, les offres de rehaussement, d'augmentation salariale sont plus grandes. Quand on additionne les différentes enveloppes qui sont disponibles sur les tables, parce que, bon, une rémunération, ça se compose de beaucoup de choses, hein, du salaire, des conditions de travail, des vacances, des congés, etc. Quand on additionne les différentes offres salariales, gouvernementales dans les différentes enveloppes, on est rendu maintenant à un rehaussement de l'ordre de 11 %. Et là, la difficulté auquel on fait face au gouvernement, c'est que je donne un exemple. Encore une fois, j'arrondis, là. La CSN, je me trompe pas, nous demande autour de 18 à 20 pour les autres employés de soutien, qui est l'équivalent de ce qu'on a donné aux éducatrices. La CSQ, jeudi passé, elle était à 11 % quand on additionne tout. Et dans la journée, M. Arcan, elle nous a déposé une offre, une nouvelle offre. Et je me suis dit, enfin, on va faire un pas un vers l'autre. Et elle a augmenté ses offres à 14 %. J'ai l'impression de négocier de l'autre côté du miroir. Là. Ça va, c'est à l'envers, cette histoire-là. Donc, et la FTQ est à un autre ordre de pourcentage. Donc, la grande difficulté présentement, c'est que même les syndicats, vous voyez, regarde, la CSQ est à autour de, bon, je vais dire maintenant 14, alors qu'elle était à 11. La FTQ autour de 11, 9 à 11. La CSN autour de 18. Ça devient extrêmement difficile.
Mais là, je vous ai...
C'est pas vrai qu'on va créer différentes classes. Là,
je vous écoute, on a l'air pas mal loin d'un règlement négocié rapide.
Bon, écoutez, je pense qu'on a des... Il y a, encore une fois, moi, je vais laisser toute la place aux tables de négociation, puis c'est là que l'énergie doit se mettre dans les prochains jours, M. Arcan, de part et d'autre. Et je pense qu'on est capable de trouver des solutions. Il y a, encore une fois, on peut faire des réaménagements à l'intérieur des enveloppes qui sont là. Et on n'est pas si loin avec certains d'entre eux. Donc, je pense qu'on est capable de trouver des solutions.
Vous êtes prêt avec qui? En fait, quel est le syndicat où vous sentez que c'est peut-être plus près d'une entente qu'avec les autres?
Bon, vous savez ce qui va arriver. Si je dis ça, on va sortir, on va dire que c'est inexact. Il faut faire très attention. Mais disons que, écoutez, les offres gouvernementales, présentement, encore une fois, là, tout est dans les détails, mais on est de l'ordre de 11 % maintenant pour l'augmentation des employés de soutien. À part la CSN, on est, je dirais, sur la même piste de danse avec les autres.
OK. C'est plus tough avec la CSN qu'avec les autres.
Pour l'instant, la CSN maintient sa position de demander des augmentations similaires que celle qu'on a accordée aux éducatrices, ce qui est dans notre position depuis le début, une chose qu'on ne fera pas, et le PM l'a réitéré la semaine passée.
OK. L'autre point, il ne faut pas le négliger, ce sont les parents. Là. Je comprends que les parents sont très solidaires avec les éducateurs, les éducatrices. Mais en même temps, là, y a beaucoup de parents qui ont plus de congés en banque, là, qui se retrouvent avec un casse-tête pour faire garder les enfants. J'ai des travailleurs autonomes qui chaque jour perdent de l'argent, puis qui se disent que le gouvernement leur donne le cash, puis qu'on en finisse parce que ça n'a pas de bon sens. Ou encore une loi spéciale, puis qu'on arrête tout ça, mais on peut pas, là. Je suis travailleur autonome, on est lundi, je peux pas perdre des contrats demain, après-demain, jeudi, vendredi. Ça n'a pas de sens.
Oui, bien, je le comprends tout à fait, le désarroi des parents. Là. Puis c'est pour ça que je trouve aberrant qu'on soit rendu dans une telle situation de grève générale illimitée, alors qu'on a sur la table des offres historiques, M. Arcan. On parle d'un contrat de travail de 3 ans où on donne des offres, là, quand je fais l'écart entre les deux, de 11 à de l'ordre de 18 à 20 % pour les éducatrices. C'est pas des pinottes, là. Et le gouvernement, on doit avoir une responsabilité qui est globale. Et ça, c'est pour l'avenir. Donc, je comprends tout à fait le désarroi des parents. Là. Moi,
mais avez-vous un deadline? Avez-vous une date où vous dites, là, si on n'a pas réglé, on peut pas continuer à pénaliser les parents comme ça?
Mais pour moi, là, j'en appelle au syndicat. Assoyons-nous et mettons tous les efforts. Pour moi, le seul moyen d'y arriver présentement, c'est de mettre tous les efforts aux tables de négociation dans les prochains jours. Pour moi, une loi spéciale, c'est un moyen d'un dernier recours absolu. Et je peux pas croire que dans un contexte où on a des offres historiques sur la table, où on est d'accord avec les grands principes de rattrapage, de valorisation pour tous les secteurs des CPE, avec les critères que je vous ai parlé, je peux pas croire qu'on y arrivera pas dans les prochains jours.
Et pas de rencontre avec le premier ministre au sommet dans le bureau.
C'est pas prévu pour aujourd'hui.
Demain?
Je ne sais pas, on n'est pas là. Moi, je suis aux tables de négociation.
OK. Merci, Mme Lebel.
Merci.
Sonia Lebel est la présidente du Conseil du Trésor. Alors, la négo continue et on comprend les revendications, mais en même temps, je vous le dis, la réalité des parents, certains parents, tout en étant solidaires là, des revendications puis de la tâche des éducatrices, pour beaucoup, ça devient un fardeau. Là. Pour beaucoup, c'est pas juste compliqué de faire garder. Ce sont des pertes de revenus parce que les congés sont épuisés. Puis parce que tu peux pas prendre le contrat, parce que tu peux pas livrer le contrat. Et pour des parents, je vous le dis, là, ça devient complexe. Faut pas non plus oublier cet aspect du problème.
L'essentiel de Paul Arcand.